franceinter.fr.
Marcel !
La jalousie n'est souvent qu'un inquiet besoin de tyrannie appliqué aux choses de l'amour.
Oh. Albertine, je l'avais retirée de la scène et mise à l'abri des désirs de tous.
Un été avec Proust. Une émission de Laura El Maki.
La jalousie n'est souvent qu'un inquiet besoin de tyrannie appliqué aux choses de l'amour. Nous sommes dans La Prisonnière, qui est avec Un amour de Swann, l'autre grand roman de la jalousie dans la recherche. Deux personnages, Swann et le narrateur, sont victimes de ce doute fondamental, de ce tremblement inséparable de l'amour. Dès lors, il n'y a plus de calme possible pour eux. Ils vivent dans la crainte constante de perdre l'être aimé à tout instant, d'être trompés, d'être joués. Seul compte la recherche de la vérité qui, peut-être, pourra les guérir. Alors comment naît la jalousie? Pourquoi consume-t-elle autant les personnages de la recherche? Et surtout, quel sens donne-t-elle à leurs sentiments? Le philosophe Nicolas Grimaldi est à mes côtés ce soir pour explorer cette forme du délire amoureux dans l'œuvre de Marcel Proust et nous donner quelques clés de compréhension.
Qu'est-ce que tu crois que les gens vont penser?
J'aurais raconté que t'avais trop bu.
Mais moi, j'ai le droit à une explication, peut-être. Tu vas parler, Paul. Tu vas parler. Allez, j'écoute.
Je suis jaloux.
Jaloux? De qui? De quoi?
Je sais pas.
Bonsoir Nicolas Grimaldi.
Bonsoir.
Alors nous venons juste d'entendre un extrait du film de Claude Chabrol, L'Enfer, adapté du fameux scénario d'Henri-Georges Clouzot. L'Enfer qui est un mot employé à la fois par Proust et par vous-même Nicolas Grimaldi dans votre ouvrage et qui décrit très bien la maladie qu'est la jalousie. Alors d'où vient-elle? Qu'est-ce qui peut l'expliquer, la justifier, la fonder? Comment se déclenche-t-elle?
La jalousie peut s'expliquer de bien des façons. Celle de Proust est la plus extraordinaire. Nous l'avions évoquée lors de l'une de nos précédentes rencontres, lorsque nous avions dit qu'il y avait deux manières d'être jaloux. Parfois, comme c'est le cas de Saint-Loup par rapport à Rachel, la jalousie est consécutive à l'amour. On craint, on redoute de perdre ce que l'on croit posséder. Et tantôt, et c'est l'exemple le plus particulier, le plus spécifique, le plus singulier chez Proust, c'est au contraire la jalousie qui précède l'amour, et c'est parce qu'on est jaloux qu'on devient amoureux.
Alors ça, c'est très très nouveau, enfin, c'est très très inhabituel surtout.
Ah, je n'en connais pas d'autres exemples. C'est cette personne que nous n'aimions pas, que nous n'avions jamais imaginé d'aimer, mais qui participait de notre vie, qui, comment dirais-je, dont la présence régulière avait constitué pour nous une habitude. Voici qu'un jour, nous ne la trouvons plus. Soudain, c'est notre vie qui se trouve fissurée par le fait même que cette habitude, ben, nous ne la retrouvons plus. Nous sommes comme dépossédés de nous-mêmes, à la recherche de nous-mêmes, mais ce nous-mêmes, à la recherche duquel nous sommes, c'est elle qui le tient. Pour que nous puissions retrouver notre tranquillité, retrouver nos habitudes, encore faut-il qu'elle soit là, il faut qu'on la retrouve. C'est ainsi que Swann cherche Odette, d'abord chez Prévost, puis à la Maison Dorée, dans tous les lieux à Paris où elle aurait pu se trouver, elle ne la trouve pas. Et enfin, elle traverse, elle monte dans sa voiture, il la raccompagne chez elle, et ce fut la première fois qu'ils passèrent la nuit ensemble. À partir de là, ils font comme s'ils étaient amoureux.
Alors, si je reviens à la base de la jalousie, elle est quand même liée à l'imagination. Hein. On se raconte des histoires.
Vous avez raison. Il n'y a pas de jalousie sans soupçon, il n'y a pas de soupçon sans imagination. Car le propre du soupçon, c'est qu'il nous fait imaginer l'irréel comme s'il était réel. Et après tout, avec qui est-elle en ce moment? Que fait-elle? Je l'imagine. Imaginer, c'est le mimer intérieurement. Donc je le vis. Et c'est, en le vivant, ça m'est insupportable.
Mais alors l'imaginer, ça veut dire qu'on est soi-même, en tout cas si je parle des personnages de la recherche, ils sont eux-mêmes responsables de leur malheur.
La jalousie est une psychopathologie de l'imaginaire, en effet. Et il me semble que si on regarde les textes un peu près, et d'ailleurs Proust le dit, ou le narrateur le dit, je n'avais jamais imaginé qu'Albertine ne fût pas une petite jeune fille de bonne famille, ayant des mœurs très convenables, et par conséquent qu'elle ne me trompait pas. Mais c'est parce que j'en étais parfaitement assuré que je jouais à imaginer qu'elle pût avoir des goûts saphiques, qu'elle pût être à l'affût d'aventures, de rencontres, etc. Et cette imagination, comment dirais-je, fait que la jalousie est comme un cancer. Elle sécrète par elle-même les soupçons qui la rendent jalouse.
Je crois que vous la comparez aussi à de l'eczéma. C'est une image qui est très parlante, je trouve.
C'est-à-dire que plus on se gratte, plus ça fait mal, plus on se gratte. Et plus j'imagine, plus j'imagine. Mais il y a un sens, me semble-t-il, beaucoup plus profond de la jalousie et capable d'éclairer non pas seulement les personnages proustiens, mais bien d'autres situations dans l'existence. C'est tout à fait à la fin. Le narrateur vient d'apprendre qu'Albertine est morte. Par conséquent, il ne va pas soupçonner ce qu'elle fait puisqu'elle n'existe plus. Il ne risque pas de la perdre puisqu'elle est morte, puisqu'elle est déjà perdue. Et cependant, il va lancer un limier, l'ancien maître d'hôtel du Grand Hôtel de Balbec, il va lancer un limier à ses trousses.
Il s'appelle Aimé, il va partir enquêter sur les traces
d'Albertine. Pour enquêter sur les rencontres, le comportement, les liaisons d'Albertine quand elle était à Balbec, à Nice, etc.
Alors que cela ne lui sert plus à rien.
Proust appelle cela la jalousie de l'escalier. C'est lorsqu'il est trop tard. Et néanmoins, c'est celle-là qui va le faire le plus souffrir, car, dit-il, ce que je cherchais à découvrir, ce n'était pas tant ce qu'elle avait fait, qui maintenant m'était indifférent, c'était de savoir qui elle était véritablement. Qui avais-je donc véritablement aimé? Qu'elle ait connu Mademoiselle Vinteuil, qu'elle ait été élevée par l'amie de Mademoiselle Vinteuil, qui sont deux lesbiennes, après tout, c'est des accidents de l'existence, peu importe. Qu'elle ait connu Léa ou pas, peu importe, c'est pas grave. Qu'elle ait rencontré ou non Bergotte alors qu'il était déjà mort, c'est pas grave. Tout cela ne lacérait pas, ne modifiait pas cette image d'une charmante jeune femme qu'elle avait été. Mais qu'elle ait pu être cette petite goton qui allait se faire prendre par des femmes dans une maison de passe en Normandie. Qu'elle ait été celle qui disait « Ah, j'ai envie de me faire casser !» ou qui délirait de plaisir en caressant de petites blanchisseuses le matin sur la plage à Nice. Cela était incompatible avec la jeune femme qu'il avait connue, au point que, s'il l'avait su, il n'aurait jamais pu l'aimer.
Alors, revenons quelques centaines de pages en arrière, si vous le voulez bien. Le premier jaloux de la recherche, c'est sans doute Charles Swann, celui qui précède sur la jalousie le narrateur, finalement. Il fréquente Odette de Crécy depuis peu, et un jour, il reçoit une lettre anonyme qui l'informe qu'Odette a été la maîtresse de plusieurs hommes et de plusieurs femmes. Il devient alors de plus en plus suspicieux. Écoutez cet extrait d'Un amour de Swann, lu par André Dussolier.
Un jour, il cherchait sans blesser Odette à lui demander si elle n'avait jamais été chez des entremetteuses. À vrai dire, il était convaincu que non. La lecture de la lettre anonyme en avait introduit la supposition dans son intelligence, mais d'une façon mécanique. Elle n'y avait rencontré aucune créance, mais en fait, y était restée. Et Swann, pour être débarrassé de la présence purement matérielle, mais pourtant gênante, du soupçon, souhaitait qu'Odette l'extirpât. « Oh non, Ce n'est pas que je ne sois pas persécutée pour cela, ajouta-t-elle, en dévoilant dans un sourire une satisfaction de vanité qu'elle ne s'apercevait plus ne pas pouvoir paraître légitime à Swann. Il y en a une qui est encore restée plus de 2 heures hier à m'attendre. Elle me proposait n'importe quel prix. Il paraît qu'il y a un ambassadeur qui lui a dit « Je me tue si vous ne me l'amenez pas ». On lui a dit que j'étais sorti, j'ai fini par aller moi-même lui parler pour qu'elle s'en aille. J'aurais voulu que tu vois comme je l'ai reçu. Ma femme de chambre qui m'entendait de la pièce voisine m'a dit que je criais à tue-tête. Mais puisque je vous dis que je ne veux pas, c'est une idée comme ça, ça ne me plaît pas. Je pense que je suis libre de faire ce que je veux tout de même. Si j'avais besoin d'argent, je comprends. Le concierge a ordre de ne plus la laisser entrer, il dira que je suis à la campagne. Ah, j'aurais voulu que tu sois caché quelque part. Je crois que tu aurais été content, mon chéri. Elle a du bon tout de même, tu vois, ta petite Odette, quoiqu'on la trouve si détestable. D'ailleurs, ses aveux même, quand elle lui en faisait, de fautes qu'elle le supposait avoir découvertes, servaient plutôt pour Swann de point de départ à de nouveaux doutes qu'il ne mettait un terme aux anciens. Car il n'était jamais exactement proportionné à ceux-ci. Odette avait eu beau retrancher de sa confession tout l'essentiel, il restait dans l'accessoire quelque chose que Swann n'avait jamais imaginé, qui l'accablait de sa nouveauté et allait lui permettre de changer les termes du problème de sa jalousie. Et ses aveux, il ne pouvait plus les oublier. Son âme les charriait, les rejetait, les berçait comme des cadavres. Et elle en était empoisonnée.
Son âme était empoisonnée. Et là, il est question carrément d'intoxication, hein, Nicolas Grimaldi. On est dans plus que dans la maladie.
Dans ce vertige soupçonneux de l'imaginaire, on a tellement besoin de vérité, comme Golo dans Pélias et Mélisande, je veux la vérité, je veux la vérité, que on ne peut finalement la demander qu'à la seule qui la sait, c'est-à-dire sa protagoniste. Et on arrive toujours à cette inquisition, à la scène de l'interrogatoire, qui est un interrogatoire quasiment policier. Et alors, évidemment... La surprise, l'ahurissant, c'est que ce qu'on apprend est bien pire que tout ce qu'on aurait pu supposer. Ce qui fait dire à Proust que le réel est en dehors du possible.
Alors, peut-on, je ne sais pas si vous allez réussir à répondre à cette question, mais peut-on seulement en guérir de cette jalousie, en tout cas chez Proust?
Alors, Swann, dans une soirée de la princesse de Guermantes, en pose la question au narrateur. Avez-vous jamais été jaloux? Et le narrateur dit non, non, c'est un sentiment qui ne m'a jamais effleuré.
Pas encore, du moins.
Voilà, c'est ça. Alors, Swann lui répond, eh bien, vous avez bien de la chance. C'est assez agréable au début, parce que ça donne du prix à ce qu'on possède. Mais, sauf tout à fait à la fin, quand on est sur le point d'en guérir, quand on reste dans sa phase de maturation, il n'y a pas de pire torture. Et le narrateur se rappellera cette phrase. Car ce fragment que nous venons d'entendre, comment dirais-je, nous invite à un parallèle avec ce qui arrivera au narrateur. Car ce que le narrateur apprendra des enquêtes d'Aimé, le maître d'hôtel, est tout à fait semblable à ce que Odette apprend à ce moment à Swann, à savoir que des entremetteuses peuvent venir la voir, qu'elles ont des clients pour elle, qu'elle a été la maîtresse de Madame Verdurin, oh, 2 ou 3 fois, je me rappelle plus, etc. Chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Alors que cette séance où Odette se révèle telle qu'il ne l'avait jamais imaginée, alors que cette séance a redoublé l'amour de Swann, il serait capable d'éteindre, d'abolir l'amour que le narrateur avait eu. De sorte qu'il vient à se demander, alors qu'Albertine est morte, est-ce que ma vie avec Albertine fut aussi lamentable que celle de Swann avec Odette? Car cette atmosphère de soupçon dans laquelle joue à être jaloux le narrateur, elle a 3 origines. La première, le médecin, Cottard, en voyant les jeunes filles au casino, leur avait dit « Regardez, leurs seins se touchent en dansant. » On ne le sait peut-être pas assez, mais la sensualité pour les femmes, la jouissance, vient principalement par les seins. Ah, grande leçon. Son ami Bloch, quand ils avaient 17 ou 18 ans, lui avait dit « Ah, tu sais, mon vieux, les femmes ne pensent qu'à ça. Elles ont l'air réservées, pudibondes, n'en crois rien. toutes sont plus lubriques les unes que les autres. Et puis, la troisième affaire, c'était Madame Swann. Madame Swann qu'il prenait pour la plus élégante et qui était en fait une chipie. Et ces trois choses, au fond, soupçonnées, après tout, le réel n'est sans doute, plutôt ce qu'on voit, n'est sans doute que l'alibi de ce qu'on ne voit pas, une sorte de camouflage. On peut tout soupçonner. Et dès lors qu'on peut tout soupçonner, on peut tout imaginer. Et voici la jalousie.
Alors décidément, la jalousie comme dérive de l'imaginaire et comme souffrance nous donne une vision bien peu romantique de l'amour chez Proust. Et nous en parlerons demain pour le dernier épisode de nos entretiens. Et ce sera l'illusion. Merci beaucoup Nicolas Grimaldi. Et donc à demain pour le cinquième et dernier épisode de ces discussions autour de l'amour chez Proust. À demain.
Rapproche-toi de moi.
Monte le son plus fort.
Je veux sentir une dernière fois ton corps contre moi.
Je pars en voyage.
Tu pars très longtemps. Je voulais